Eh ben, c'est un beau démarrage, tout en rythme, pour vous aider à tenir jusqu'à 13h. Merci à toutes et tous, ouais, c'est ça, d'être là pour ce temps d'échange sur un format qu'on teste cette année, celui du dialogue en une heure, pour essayer, ouais, on a essayé de vous trouver deux personnes qui vont pouvoir rentrer dans une discussion, et puis on verra au bout de 30, 40 minutes, comment vous rentrez aussi un petit peu dans cette discussion-là, sachant qu'elle aura vocation à se poursuivre après, jusqu'aux écuries Saint-Hugues. C'est tout l'intérêt. Voilà. Là, on se lance avec ce temps de discussion sur, évidemment, un sujet dont tout le monde parle depuis bientôt 2 ans, l'intelligence artificielle. Pour ce faire, on est très heureux d'accueillir Lou Velgreen, cofondatrice de Data for Good, qui est une ONG qui a pour mission de remettre la technique au service de projets de société progressistes et qui par ailleurs sont une structure qui accompagne beaucoup d'ONG sur des vrais projets. Lou, tu auras sûrement l'occasion d'en dire 2 mots, mais c'est une structure à suivre et qui a lancé un appel à financement participatif pour justement peser plus fortement dans la période. Et puis David Cormand, député européen Europe Écologie, et qui a été l'initiateur au début 2025 d'un contre-sommet de l'IA en parallèle du sommet de l'IA qui avait été accueilli en France par le président de la République. Merci à tous les deux d'être là. Pour ce temps d'échange qui a vocation, alors on va pas rentrer dans des longs monologues de 5-10 minutes, c'est là l'intérêt de ce format-là. Et je vais vous lancer avec, au fond, une première question, une interpellation de béotien. C'est-à-dire qu'on voit depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, une sorte de déferlement de l'IA dans nos vies, dans les discours politiques, dans les médias. On en parle beaucoup. C'est l'arrivée de ChatGPT qui en a fait un sujet de société. Mais c'est aussi un emballement qui est un emballement financier. Je crois qu'en 2025, il y a eu plus de 400 milliards d'euros investis dans l'IA, je crois, rien qu'aux États-Unis. Que le cabinet de conseil Morgan Stanley évalue les investissements à 3 000 milliards de dollars en 2029. Donc on est sur des dimensions budgétaires qui sont supérieures à tout ce qu'on n'a jamais budgété pour faire la transition sociale écologique de l'ensemble des pays développés et en développement. On est sur des montants fous, on parle de bulles financières maintenant. Et au fond, cette première question-là, c'est le premier objectif, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière cet emballement, de quoi on parle, c'est quoi cette espèce d'iceberg qu'est l'IA, ce gros ensemble que nous on connaît essentiellement par ChatGPT, qu'on commence à connaître parce que nos enfants et nos copains utilisent ChatGPT maintenant au quotidien pour la moindre recherche ou information. Voilà, déjà, c'est quoi, à quoi on a affaire en fait? C'est quoi le problème? De quoi on parle? C'est la première question que je viens vous poser.
Ça va être dur de répondre rapidement à cette question, mais je vais essayer. Pour commencer, déjà, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que on n'arrête pas de parler d'IA pour parler de plein de choses différentes. Aujourd'hui, c'est un peu comme si on utilisait le terme véhicule pour parler à la fois d'une voiture, d'un avion, de plein de choses différentes. Donc en fait, ce qu'on observe quand on dit IA, en fait, maintenant, on dit plutôt IA générative. On pense à l'IA générative, à ChatGPT, à tous ces modèles en fait, qui génèrent même du texte et qui explosent. Et c'est vraiment cette IA-là qui est en train de tirer complètement la construction d'infrastructures dans le monde. Je pense que ce qui est important de dire aussi sur l'intelligence artificielle, c'est que il faut vraiment pas avoir une approche uniquement technique. En fait, on parle d'objets qui sont intrinsèquement politiques, qui transforment notre rapport au monde, notre manière de travailler, notre manière de faire société, et que ils incarnent une vision du monde, celle de ceux qui sont en train de la concevoir. Et aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises dans le monde qui ont la main sur la manière dont elles se déploient. Donc, il faut savoir que, par exemple, 90% des data centers IA aujourd'hui dans le monde, ils sont détenus par des entreprises principalement américaines et chinoises. Donc, en fait, derrière la question de l'IA, il y a une question de pouvoir fondamental. Et du coup, c'est très important de sortir d'un débat unique technique. Or, c'est un peu l'approche qu'on a aujourd'hui. On va mettre de l'IA partout, mais on ne se demande jamais qui est derrière, est-ce que ça change et est-ce que ça va impliquer pour la société. Ouais, je peux m'arrêter là.
Mais ce que vient de dire Lou, d'abord bonjour à tout le monde, merci de l'invitation et merci de donner l'occasion de parler de cette question de l'IA. Et j'adhère complètement à ce que vient de dire Lou, et c'est une des choses vraiment à retenir, c'est que l'IA... Je dirais même la tech, la big tech en général, c'est vraiment pas une question technique. C'est pas une question de compétitivité ou je sais pas quoi. C'est une question politique et c'est une question de domination. En fait, ce que sont en train de faire les grandes multinationales de la big tech, notamment via l'IA, c'est de mettre en place des infrastructures et des modèles de domination. Non seulement de domination du marché économique, mais aussi de domination géopolitique et politique tout court. C'est pourquoi on assiste à une forme de convergence de points de vue entre ces multinationales de la tech et des projets politiques qu'on qualifie d'illibéral, totalitaire. Et vous avez une joint venture qui se fait entre on entend parler, Musk, Amazon, etc., et des projets d'extrême droite, alors non seulement aux États-Unis, mais qu'on tendance à être exporté. Et tu parlais, Kevin, des questions de... Alors, j'essaye de faire l'affaire du dialogue en même temps. Que bon. Et on expérimente. En tant que... c'est ce que tu disais sur les investissements colossaux. En fait, ces investissements inédits dans l'histoire des investissements capitalistiques, etc., etc., il faut bien comprendre qu'ils induisent... Qui dit investissement dit retour d'investissement. Ils dictent donc des modèles économiques de retour d'investissement qui, de mon point de vue, sont incompatibles avec nos modèles démocratiques, d'état de droit, de protection de la vie privée et voilà, de nos droits fondamentaux. En fait, c'est ça qui est en train de nous arriver. Et derrière ces modèles différents d'IA, moi, j'y vois des manières d'exercer une domination sur les gens et sur l'économie, etc., etc. Donc c'est vraiment de ces trucs-là dont on parle, à mon avis, quand on parle d'IA. Alors, pourquoi, de mon point de vue, ils sont incompatibles ? Et on le voit avec les grandes plateformes de commerce ou avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le modèle économique de ces firmes ? C'est de capter nos données et d'autres données, plein de données, pour les traiter, grâce à des algorithmes, et notamment grâce à l'IA, pour ensuite faire, par exemple, de la publicité ciblée. Mais ce qu'on appelle la publicité ciblée, c'est pas la publicité à la papa, où on vous donnait envie d'acheter un pot de Nutella, comme ça, dans la rue au hasard. C'est qu'on va comprendre vos aspirations, et on va orienter vos désirs pour vous vendre des trucs. Et donc, c'est en ça qu'il y a, pour moi, une atteinte à ce qu'on qualifie comme étant nos droits fondamentaux, à la vie privée, etc., etc. Donc, c'est un des exemples, mais il va y avoir aussi, dans la captation de données, tout ce qui est la captation de la propriété intellectuelle, et notamment artistique. Hein, les films, les musiques, etc. Pour en faire quoi ? Pour les digérer, et non pas les mettre à disposition, ces œuvres, du public, mais pour en créer des nouvelles artificielles, synthétique, et en faire commerce.
Ouais, et peut-être pour compléter, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces énormes modèles d'IA générative, en fait, ils fonctionnent, enfin, en fait, ils ont été construits pour répondre à plein de besoins différents, ils sont multimodaux, et en fait, c'est impossible de les faire fonctionner sans qu'ils soient entraînés sur des volumes de données qui sont gigantesque. En fait, c'est comme s'ils ont absorbé Internet. Ils ont absorbé, ils ont pillé des données publiques, des droits d'auteur, des choses que des humains ont construites pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés. Ils les ont absorbés pour se les approprier et être les seuls à avoir à en tirer des revenus. C'est quand même fou quand on se dit qu'il y a quelques années, on avait tout un débat en France sur Adopi et qu'on surculpabilisait les gens sur la question du droit d'auteur. Et là, on a des entreprises qui se sont appropriées l'intégralité de la production culturelle et sociale humaine et on les laisse faire. Enfin, c'est complètement délirant. Et au-delà de cette question de la donnée, il y a la question du travail aussi qui est caché derrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on parle très peu. Mais en fait, ces modèles ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas des centaines de milliers de travailleurs du clic dans les pays du Sud global qui, derrière, annotent, modèrent, parce que plus en plus la donnée originelle elle est pourrie, elle est mauvaise et elle est vaste, et bah plus en fait derrière il faut aller en sortie, aller re-entraîner le modèle et l'améliorer pour qu'on ne se retrouve pas face à plein de violences, de contenus pédocriminels, etc. Donc il y a énormément d'enjeux sociaux et d'appropriation qui sont complètement masqués par un truc qu'on essaye de nous faire croire comme étant complètement magique et qu'on nous vend littéralement. Et je pense que ça, c'est hyper important d'en parler aussi, de toute cette question du mythe autour de la technologie. Enfin, Sam Altman et Elon Musk, ils nous disent vraiment littéralement on doit développer ces technologies parce que ça va nous permettre de tout faire. Ça va nous permettre de sauver le cancer, de sauver la planète, de trouver les réponses à tous les problèmes mathématiques, etc. Et vraiment, c'est ça, littéralement, mot pour mot, qu'ils disent en trois phrases. Et c'est la raison pour laquelle on devrait investir des milliards.
Mais au-delà des discours, tu disais que c'était ils absorbaient toutes ces données pour développer des outils au service de tel ou tel usage. C'est quoi les principaux usages que ces entreprises qui investissent des centaines de milliards veulent mettre en place ?
Bah, en fait, aujourd'hui, leur objectif, c'est de gagner le plus d'argent possible. Comme tu disais, David, les modèles de ces grandes entreprises ils reposent énormément sur la publicité. Et donc, le but, en fait, de toute façon, aujourd'hui, l'IA générative, enfin, si on parle que d'IA générative, l'IA générative, c'est absolument pas rentable pour les personnes qui les développent. Et il faut, leur objectif, du coup, c'est d'être le grand gagnant. Donc, ils vont tous développer plein de data centers. Ils vont essayer d'être ceux qui gagnent le plus sur le marché, mais à un niveau complètement exponentiel. Enfin, c'est délirant de se dire qu'il y a des... OpenAI a de la donnée sur des milliards d'êtres humains dans le monde. Enfin, ça n'existe pas, en fait, ce niveau de concentration dans les mains d'une seule entreprise. Et du coup, les usages, je pense que, en tout cas, c'est les plus importants à surligner. Je pense qu'il y a les liens très forts entre toute l'industrie de la publicité, l'industrie de l'oil and gas. Parce que ces outils, en fait, ils viennent renforcer, rendre des puits plus rentables plus longtemps. Ils viennent aider à faire de l'exploration. Donc, c'est très intéressant de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, le secteur de la tech et le secteur pétro-gazier s'entraident. Parce que ce qui se passe, c'est que le développement des infrastructures de data center est en train de relancer l'industrie fossile. Il y a plein de nouvelles centrales à gaz qui sont en train d'être construites exclusivement pour répondre à la demande des centres de données, alors qu'en 2021, il y avait quand même l'Agence internationale de l'énergie qui avait dit qu'on ne devait plus faire de nouveaux projets de charbon, de pétrole ou de gaz pour rester sous les 1,5. Et donc là, on vient créer des nouveaux besoins qui justifient de relancer cette industrie. Et dans l'autre sens, la tech vient aider le secteur pétrolier à forer plus, à faire plus d'exploration, etc. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Je pense que si juste je les cite rapidement sans les développer, on verra s'il y a des questions sur les questions, mais on rentre aussi dans une économie du coup de surveillance où tout ce qu'on fait peut être tracé. Et en fait, ces entreprises, elles ont intérêt à ce que chacun de nos gestes, de nos actes deviennent des traces numériques pour pouvoir les rentabiliser. Et c'est important de dire quand même le rôle que les États jouent aussi là-dedans. Si on regarde ce qui se passe en Europe avec par exemple Chat Control, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en fait en ce moment, enfin je ne sais pas si peut-être tu veux en parler, mais sous réserve de lutter contre la pédocriminalité, et bien sûr qu'il faut le faire, l'Europe veut avoir accès à l'intégralité des messages qui sont envoyés avant qu'ils soient encryptés pour vérifier qu'il n'y a pas de sujet louche dedans. Donc en fait, par l'angle de la pédocriminalité, on s'autorise à en fait couper les libertés des Européens. Et ça, en fait, ces risques de dérive, ils existent partout avec la technologie parce que intrinsèquement, il y a un côté totalitaire aussi dans le fait de contrôler l'intégralité des données qui s'échangent.
Oui, alors pour ce que dit Lou, il y a un concept qui s'appelle, on a parlé, le capitalisme de surveillance, qui a été développé par une universitaire américaine qui s'appelle Shoshana Zuboff, que je vous invite à... Voilà, il y a des articles qui expliquent assez bien cette affaire de ce qu'elle appelle le capitalisme de surveillance. Et par rapport à ta question, Kevin, quels usages ? D'une manière un peu provocatrice, je serais presque tenté de dire qu'eux-mêmes, à ce stade, n'en savent rien. En fait, l'idée, c'est que d'abord, ils construisent l'infrastructure et tout ce que ça implique, la captation, et ils en feront bien quelque chose. Et il y a plein d'idées. Alors, l'un des trucs qu'ils vendent quand ils font les tours de table, parce que, en fait, leur enjeu aujourd'hui, c'est pas d'être rentable. ChatGPT, OpenIA, tout ça n'est pas rentable. Ils sont d'ailleurs capitalisés, ce qui est aussi un problème, à des sommes qui n'ont aucun rapport avec les chiffres d'affaires. Je parle même pas de bénéfices, les chiffres d'affaires qu'ils produisent. Ce qui peut créer des crises financières, ce qui, moi, m'empêche pas de dormir, jusqu'au moment où on sait qui les paye, les crises financières. Et Scoop, ça sera pas eux. Bon. Donc, en fait, c'est ce qui se casse la gueule au fond. Voilà, mais en fait, c'est nous qui allons éponger derrière. Bref. Mais ils développent, par exemple, quand ils font des tours de table, ils promettent beaucoup. Alors, l'un des trucs qu'ils aiment bien promettre, c'est la disparition d'emplois. Le fantasme de... Et d'ailleurs, le terme même qui est choisi de parler d'intelligence artificielle, c'est donc une qualification. L'intelligence, c'est par définition un attribut humain. Or, enfin, je ne suis pas très fort en technologie, mais en gros, une intelligence artificielle, c'est un algorithme qui sait très bien faire de la statistique. On lui pose une question, et il y associe une recherche statistique pour recracher une réponse. Et au fur et à mesure qu'il se trompe ou pas, ça va affiner la réponse, etc. Mais c'est un exercice statistique, ce que fait l'intelligence artificielle. Ce n'est pas une intelligence au sens... Ce n'est pas de l'intelligence. C'est un programme. C'est bon. Donc, eux, leur truc, c'est, en gros, leur projet de société, c'est de dire, tous, on va pouvoir remplacer l'activité humaine par une fonction algorithmique. Et je pense qu'en partie, c'est vrai, en partie, c'est beaucoup de pipeau. Parce qu'y compris, la question, le titre, c'était « Y a-t-il un problème avec un point d'interrogation ?» Je pense que tout le monde a compris que le point d'interrogation était rhétorique. Il y a un problème. Mais dans les fantasmes qu'il y a beaucoup, il y a des diversions pour moi de « ils vont supprimer tous les emplois ». Non, en vérité, il y a énormément d'emplois que l'IA n'arrivera pas, et c'est tant mieux, à remplacer. Mais dans leur levée de fonds, ils sont forcés de promettre ces trucs-là. L'autre domaine dans lequel on nous promet un mirage de l'IA, c'est dans, et j'espère, c'est dans l'agriculture. Après la mécanisation, après les intrants, après la chimie... Après toutes ces contraintes qui sont en train de tuer en fait les agriculteurs, parce qu'ils sont en fait ils ont des investissements extérieurs, le nouveau truc après les OGM, on est en train de dire mais va y avoir l'IA, il y aura un drone qui va arriver, qui va repérer au centimètre carré près là où il faut foutre la goutte de glypho, je sais pas quoi, et l'agriculteur il aura plus rien à faire, il sera là derrière bon, tout ça et en fait il y a quelque chose qui relève du fantasme et du messianique. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux. Parce que ces infrastructures qui sont en train d'être mises en œuvre pour ces usages, qui pour un certain nombre sont fantasmés, elles vont exister, elles sont là. Et les usages à terme, c'est ce que disait Lou, ils sont, j'ai envie de dire, par nature totalitaires. Parce qu'ils reposent sur la surveillance et l'influence. Donc la perte d'autonomie, de la pensée singulière, dans un groupe, où il y a cette forme d'uniformisation qui, de mon point de vue, par nature totalitaire. Donc, j'ai envie de dire, quels que soient les usages qu'on pourra en faire, en fait, ça craint. Parce que l'infrastructure en elle-même conduit à un usage négatif pour l'intérêt général.
Il faut tout jeter. L'objectif, ce serait de tout arrêter ou il y a quelque chose à en tirer quand même ?
Du lien ?
De ces investissements, de ce qui se passe en moment, est-ce qu'il y a des choses intéressantes comme
je... En fait, je pense qu'il ne faut pas prendre le sujet comme ça, c'est-à-dire il ne faut vraiment pas prendre la question sous l'angle il y a des bons usages et il y a des mauvais usages. En fait, la technologie, comme je le disais tout à l'heure, elle est vraiment intrinsèquement politique et elle sert à une vision du monde. Et en fait, si on creuse un peu la vision du monde des Elon Musk et Sam Altman, etc., c'est hyper intéressant de voir. D'ailleurs, il y a un historien et une chercheuse de la technique qui s'appelle Timnit Gebru qui ont publié tout un article où ils ont remonté en fait toutes les idéologies derrière les gens de la Silicon Valley et en fait ils identifient 7 grands courants de pensée dont le long-termisme, le cosmisme, etc., plein de ismes. Mais qui ont tous un peu des idées, le transhumanisme. Et donc en fait, tous ces gens-là, en fait, ils partagent ce courant de pensée qui remonte jusqu'à des idées aussi proches de l'eugénisme. Hein. Eux, ils appellent ça dans leur article le néo-eugénisme des acteurs de la tech. C'est-à-dire que c'est plus la même manière de faire, mais c'est les mêmes idées derrière. Celle de penser que la technologie va augmenter une certaine catégorie d'humains, qu'on va pouvoir filtrer ceux qu'on considère comme les plus intelligents, les meilleurs, et que en fait tous les autres on s'en fiche un peu. Et d'ailleurs le long terme, si on pousse vraiment le raisonnement loin, l'idée c'est de dire que ce qu'on vit aujourd'hui c'est un battement de cils par rapport à l'histoire de l'humanité et que ce qui compte c'est les humains de demain. Et les humains de demain, bah, dans des milliers d'années, ils seront beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui, donc ils comptent beaucoup plus que nous. Donc en fait ce qui se passe aujourd'hui, donc ça les pousse en fait à abandonner tous les combats d'aujourd'hui, c'est-à-dire la question de la pauvreté, la question du réchauffement climatique, tout ça c'est, on s'en fiche un peu en fait, c'est pas important. Ce qui compte c'est de faire survivre quelques humains qui pourront essaimer dans une planète ultra technologique. Et c'est vraiment de ces courants de pensée-là qui viennent. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à aller lire leur article pour creuser, parce qu'il faut comprendre qu'il y a vraiment un rapport à la technologie vraiment presque religieux et très idéologique. Et d'ailleurs, une citation très intéressante de Sam Altman qui dit au début on veut fonder une religion et puis dans le monde réel, je cite pas mot pour mot parce que je me souviens exactement de la citation, mais en gros ce qu'il dit c'est au début on veut créer une religion et puis en fait finalement dans le monde d'aujourd'hui ce qui s'en rassemble le plus c'est de créer une entreprise et on fait comme si c'était une religion. Et en fait c'est un peu ça son projet de société, et donc c'est important d'avoir ça en tête. Donc après, bien sûr qu'il existe des modèles d'IA beaucoup moins, qui consomment beaucoup moins, qui ne sont pas du tout des modèles d'IA génératifs qu'on utilise aujourd'hui, parce que l'IA, on s'en servait bien avant qu'il y ait un énorme buzz en 2022. Par exemple, dans les rapports du GIEC, par exemple, pour prédire de la météo, etc. Mais en fait, c'est systématiquement l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, il faut inverser le raisonnement, c'est-à-dire la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est dans quelle société on veut vivre, c'est quoi les valeurs qu'on veut défendre, comment est-ce qu'on atteint, c'est quoi nos objectifs écologiques globaux, et ensuite on peut réfléchir à peut-être une technologie plus qu'une autre, et en la pensant d'une manière systémique, en réfléchissant à tous les bouleversements qu'elle va impliquer dans son adoption, etc. Mais en fait, il faut complètement renverser le raisonnement et le développement actuel.
Une question pour toi, David, parce que tu es député européen, tu as des collègues, enfin, c'est forcément un sujet dont vous vous emparez au Parlement européen ou au Conseil ou à la Commission européenne. Pendant des années, sous les années de avec notamment la commissaire Vestager, il y a quand même eu, au nom de la libre concurrence, une mise en demeure des GAFAM de s'adapter à un modèle européen. Face à cette espèce d'accélération, de captation par des grandes multinationales, comment réagissent les responsables politiques et les institutions européennes en ce moment ?
Ouais, c'est une question qui est compliquée. Alors, première chose, pour savoir de quoi on parle, vous savez, pendant la dernière mandature 2019-2024, on a beaucoup entendu parler du Green Deal. Donc, c'est plus de 65 législations européennes pour la transition écologique. On a moins entendu parler d'un paquet de législations sur le numérique. Il y en a plusieurs. Il y en a une législation qui s'appelle le Data Act, qui était une législation justement qui visait à réguler, en tout cas, qui est propriétaire des données, pour savoir un peu flécher qu'est-ce qu'on a le droit de prendre comme données, à qui elles sont, etc. Bon, je ne développe pas. Il y a eu deux grands textes qui sont le DSA, Digital Service Act, Digital Market Act, qui sont des textes qui visent à réguler l'action des grandes plateformes de commerce en ligne et les grandes plateformes de réseaux sociaux, pour faire vite. Et il y a eu un autre texte qui s'appelle l'IA Act, qui est donc une législation pour réguler l'intelligence artificielle. Et dans ce texte, on définissait différents niveaux d'intelligence artificielle. Les très dangereuses, donc celles-là, elles sont interdites. Les à risque, on les régule. Et celles qui ne poseraient pas de problème, etc. cette architecture, ce paquet de législatives sur la tech, sur, il y en a eu quelques autres là, il constitue, de mon point de vue, le squelette, la première ligne de défense d'un modèle numérique européen qui essaierait de résister aux deux grands modèles, qui ont beaucoup de points communs d'ailleurs, dominants, qui sont celui de la Chine et celui des États-Unis, pour faire vite. Bon. Ce qui est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'Union européenne, elle a quand même pensé ça. Et par rapport à ce que tu dis, c'est un paradoxe, parce que Vestager, qui est une Danoise, je crois, enfin très libérale, libre commerce, machin, donc on aurait pu se dire, bah, elle va pas faire chier la tech, parce que la libre concurrence ou quoi. Et ce qui est très important à comprendre et intéressant à comprendre avec ces géants de la tech, c'est qu'ils mettent par terre toute cette idée dans un monde libéral qui n'est pas le nôtre. Enfin, j'imagine, moi je suis pas pour ça. Ah, le commerce libre et non faussé. En fait, c'est très curieux de voir, y compris les États-Unis qui étaient les promoteurs de ce modèle-là, de façon plus ou moins sincère, mais c'est un autre débat, complètement accepter cette mutation profonde du capitalisme avec la big tech. C'est fini la concurrence libre et non faussée. C'est le temps des empires, des prédateurs et de l'économie de rente. C'est ça le modèle économique de ces big tech. C'est d'imposer une rente où le citoyen consommateur ou la citoyenne consommatrice n'a plus de libre arbitre. Elle est prisonnière d'une infrastructure dont elle dépend à peu près pour tout. Et ces géants de la tech ont fait quelque chose qu'ont toujours voulu faire les géants capitalistes, les grands capitaines d'industrie. C'est challenger les États-nations sur ce qu'on appelle le régalien. C'est quoi le régalien ? C'est pouvoir lever l'impôt. C'est battre monnaie. C'est avoir des infrastructures de défense et de services, enfin de flux, d'autoroutes, enfin je sais pas quoi, de voies de chemin de fer pour que ça fonctionne. Et c'est protéger la vie privée, ou plus exactement, dans une démocratie, dans la dispute que les citoyens ont avec leurs États, c'est quel taux de pénétration dans leur vie privée ils consentent ou pas. Tout ça avec les géants de la big tech, ils se substituent d'une certaine façon à l'État. Ils ont le contrôle sur les infrastructures stratégiques. Tous les câbles sous-marins qui fonctionnent, c'est des boîtes privées. Starlink, les satellites de Musk, indispensables pour notre défense, pas qu'en Ukraine, hein, européenne. Il n'y a que la France qui a quelques réseaux de satellites pour pouvoir cartographier en cas de conflit, mais ils ne pourraient pas couvrir ce que couvre Starlink. Battre monnaie, les cryptos, c'est fou. On a consenti à ce que des monnaies soient mises en œuvre contre l'intérêt des États. Et ce sont des compagnies qui peuvent quasiment s'absoudre de l'impôt. C'est à ça qu'on a affaire. C'est-à-dire qu'ils challengent les États-nations démocratiques, avec d'États, pour les transformer par quoi ? Des empires. En fait, c'est une nouvelle phase de l'impérialisme, ces big tech. C'est pour ça qu'elles sont, de mon point de vue, par nature, totalitaires. Et donc la question que tu posais par après, c'est du coup, faut tout jeter. Et Lou y a répondu. La question, c'est quel usage ? Souvent, on dit la tech, c'est comme un marteau. On peut s'en servir pour construire une maison. On peut s'en servir pour tuer quelqu'un. Ça ne marche pas avec l'IA telle qu'elle est développée, ce truc-là. Elle est, par nature, faite pas pour construire les maisons. Voilà. Donc, en fait, c'est quel usage on veut, nous, par rapport à nos valeurs. Et une fois qu'on a répondu à ça, quelles infrastructures stratégiques on veut mettre en œuvre, dont nous serons maîtres, que nous contrôlerons. C'est-à-dire quoi, le contrôler ? C'est soit par un contrôle public, un service public, soit par un contrôle citoyen. Hein, c'est le système potentiellement des blockchains ou des choses comme ça, où, en fait, c'est l'histoire des logiciels libres, c'est la low-tech, c'est tous ces systèmes-là. En fait, c'est à ça qu'il faut penser. C'est pas essayer de s'aligner sur ce modèle quoi. C'est quel modèle à nous, en fonction de nos valeurs, on met en œuvre.
Mais là, du coup, ça ouvre deux questions. Il y a, au fond, la question de résister une vague qui est massive, et puis à dessiner un autre chemin. Sur les capacités à résister à ça, sachant que par ailleurs, il y a effectivement la dynamique ChatGPT qui rentre dans la vie, qui devient quelque chose d'habituel dans le quotidien de beaucoup de gens, notamment la nouvelle génération. Comment on résiste, et puis après, quel chemin alternatif, au moins depuis l'Europe, quoi.
Ouais. Du coup, sur la partie de résister, bien sûr, il y a des échelles individuelles qui existent. Après, moi, je voudrais vraiment insister sur la partie collective, parce que je pense qu'on ne va pas tout seul, en arrêtant d'utiliser ChatGPT, lutter contre des empires. Donc, je peux parler... donc, nous, par exemple, à Data for Good, ce qu'on essaie de faire, déjà, on est en... on est dans une stratégie là de pendant un an et demi, on essaye le plus possible de sortir de tous les outils propriétaires américains. C'est pas facile à faire. Déjà, c'est impossible de sortir intégralement, hein, parce que comme tu l'as dit, par exemple, faut savoir que Amazon, Meta, Google et Microsoft, ils détiennent 50% des câbles transatlantiques internationaux. Donc en fait, ils sont en train de mettre la main sur l'intégralité de l'infrastructure. Il y a 20 ans, c'était impossible en fait. C'était impossible que des entreprises privées soient capables de construire ce type d'infrastructure. Il faut quand même se rendre compte du changement d'échelle et des moyens financiers qu'ont ces entreprises. Donc bref, il y a quand même des solutions qui existent, qui sont plus libres, sur lesquelles on peut avoir la main sur sa propre donnée. Donc par exemple, nous on essaye vraiment d'auto-héberger le plus possible nos données, comme ça elles peuvent pas être réquisitionnées par l'État américain, parce que quand même une information importante, je pense, à vous donner. Malgré le RGPD et toutes les réglementations qu'on peut avoir en Europe, n'importe quel et ça c'est important à avoir en tête pour comprendre aussi les débats qu'on a aujourd'hui sur le fait de construire plein d'infrastructures en France. On nous dit beaucoup que comme les États-Unis ils accélèrent, nous aussi en France il faut qu'on construise plein d'infrastructures, plein de data centers sur le sol français pour être plus résilient. Mais aujourd'hui, 80% des infrastructures qui sont construites en Europe, c'est des entreprises américaines. Et en fait, ces entreprises américaines, à partir du moment où il y a une entreprise américaine qui est impliquée dans la construction ou l'opérationnalisation d'un data center, si Donald Trump décide demain que pour des raisons de sécurité ou autre, il a besoin d'avoir accès aux données, il peut y avoir accès via le Cloud Act, qui est un acte qui fait qu'il y a une extraterritorialité sur le droit des autres nations. Donc, tous les discours de souveraineté qu'on entend aujourd'hui, par exemple OpenAI qui a sorti un article, il y avait un article il y a 2 semaines sur OpenAI qui construit un data center pour la souveraineté européenne en Norvège, c'est n'importe quoi en fait, c'est absolument pas de la souveraineté. Donc c'est important d'avoir la maîtrise de ces données le plus possible, et je pense qu'il faut tous dans nos entreprises, dans nos structures, avoir ces réflexions parce qu'elles sont fondamentales pour garantir nos libertés, nos démocraties dans un monde qui devient de plus en plus fasciste. Et puis après, ce qu'on essaye de faire aussi, là il y a un mois, on a rejoint une petite organisation qui s'appelle Wissou Notre Ville, qui se battait depuis 4 ans contre un data center Amazon en Ile-de-France, et on a fait une intervention volontaire de recours pour lutter contre l'extension d'un centre de données Amazon. Et donc notre but, c'est d'utiliser cette lutte locale pour poser une question beaucoup plus nationale de pourquoi est-ce qu'on construit autant de centres de données, à quoi ils vont servir. Et ça, en fait, lutter contre des data centers localement, on peut tous le faire. On peut tous regarder si à côté de chez nous, il y a un data center. Enfin, il y a des luttes qui sont en train de se monter partout dans le monde de citoyens, citoyennes qui résistent localement contre des installations. Et je pense que, comme le disait un peu Alice tout à l'heure, on a besoin, enfin la table ronde précédente, on a besoin d'entrer en résistance face à la vague en cours. Et puis, donc là, on a beaucoup parlé de l'infrastructure. Il y a la question des usages. Et la question des usages, c'est pareil. Il y a plein d'organisations qui sont en train de s'organiser pour passer par le droit, pour interdire certains usages. Donc je pense par exemple à l'action de la Quadrature du Net avec 15 autres organisations, dont la Ligue des droits de l'homme, le Mouton numérique, etc., qui attaquent l'algorithme de la CAF. Parce que donc là c'est les algorithmes de manière plus générale, mais je pense que c'est aussi hyper intéressant de se demander comment est-ce que ces algorithmes de plus en plus ils viennent s'immiscer dans le service public, dans l'accès aux droits des citoyens, et donc systématiquement pénaliser les personnes les plus précaires. Et donc là ils attaquent cet algorithme pour en fait interdire des décisions automatisées dans le public qui aujourd'hui restreignent l'accès aux droits de plein de populations. Donc en fait, il faut qu'on identifie les leviers d'action qu'on a et qu'on résiste par le droit, par le contentieux, à la vague en cours. Je pense que c'est crucial de le faire.
Merci Lou. Est-ce qu'on prendrait quelques questions à ça? Est-ce que Bertil, je peux te filmer?
vous ai vu en premier.
Bonjour. Moi, je me posais la question. Enfin, je pense que la réponse est déjà donnée, mais quand même, j'avais envie d'avoir une confirmation. Il n'existe pas aujourd'hui de possibilité d'une IA générative alternative. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, qui est plus personnelle, vous n'utilisez pas du tout l'IA à titre personnel générative. Voilà, c'était mes deux questions.
Bonjour, merci. J'aurais une petite question là. Il y a un petit truc qui me chagrine, y compris hier soir dans l'intervention de Cédric Villani, personnalité éminente sur les sujets de l'IA qu'on entend beaucoup également. Il y a un truc sur ce côté inéluctable et soutenable du phénomène IA que vous décrivez très bien. Il y a un truc qui me semble coincé. Alors, on entend beaucoup parler, évidemment, chez les écolos des problèmes de soutenabilité carbone, etc., les shifters récemment et d'autres qui font des rapports. Il y a beaucoup de commentaires qui circulent. Je ne sais pas si vous connaissez Edouard Zitron. Alors, ce n'est pas Léon Zitron, hein. Zitron, c'est un Américain qui suit avec beaucoup de persévérance et d'acuité les enjeux économiques des acteurs en ce moment, et qui pointe que quand on regarde un peu avec un tableur la quantité d'argent qui se met en place, et effectivement, vous l'avez dit brièvement, la perte totale de profitabilité, l'absence totale de profitabilité, on est sur des ordres de grandeur de non-soutenabilité économique stricto sensu de ce modèle, avec Nvidia, etc., je ne développe pas, on n'a pas le temps. Je ne sais pas si ce type-là, peut-être que vous le connaissez, ou que d'autres commentaires comme ça, vous les voyez passer, il y a un truc où je me dis, mais de toute façon, ça ne tient pas. C'est-à-dire que ça, même en asséchant tout le capital risque disponible pour tenir les ordres de grandeur à même pas 5 ans de ce qu'ils annoncent, personne aujourd'hui n'accepte de payer un ChatGPT le prix qu'il faudrait pour qu'il commence à espérer être rentable. Je ne vous parle même pas de Spotify, je ne parle même pas d'Airbnb, je parle d'un truc où juste ça ne tient pas. Et ça, en fait, là, on commente sur des généralités, des éléments très intéressants. Vous avez tout à fait raison de pointer ça. Mais le truc, le côté, c'est pire que le dot-com, c'est pire que la crise financière immobilière. Les ingrédients de soutenabilité capitaliste de ce truc-là, aujourd'hui, il y a quand même un truc bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, je ne développe pas.
Merci beaucoup. On fait déjà peut-être un petit tour, puis on fera un deuxième tour de parole.
Tu veux commencer, Lou ?
Comme tu veux. Je peux répondre à la question sur l'IA générative soutenable. En vrai, je pense pas, dans le sens où pour développer des modèles qui répondent à autant de choses différentes, il faut des infrastructures qui consomment énormément, à la fois en termes de données, en termes de travail humain, etc. Il y a plein de chercheurs qui montrent que... Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout utiliser d'IA. Ce que je veux dire, c'est que il y a plein de chercheurs, dont Tim Djebrou, dont je parlais tout à l'heure, qui réfléchissent et qui essaient de développer des modèles ultra spécialisés qui viennent répondre à une tâche en particulier pour faire de la prédiction climatique, pour faire des modélisations pour le GIEC, pour faire plein de choses comme ça. Et donc... En fait, et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, tous les modèles, typiquement même dans l'industrie pétrolière, etc., enfin dans l'industrie, tous les modèles d'IA qui sont utilisés, c'est très très peu de l'IA générative, en fait. Parce que l'IA générative, aujourd'hui, le cas d'usage concret rentable pour une industrie, il n'existe pratiquement pas. Il y a même une étude du MIT qui est sortie il n'y a pas longtemps qui a montré que 95% des usages, aujourd'hui, ils n'étaient pas rentables pour les entreprises qui l'utilisaient. Donc en fait, aujourd'hui, même dans l'industrie, on utilise principalement de l'IA traditionnelle plus que de l'IA générative. Après, du coup, nous, à Data4Good, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de la data, de la tech, pour aider des associations à aller plus loin dans leur combat, des associations qui luttent pour la justice sociale, pour la démocratie, pour l'environnement. Il y a plus de la moitié des projets qu'on fait qui n'utilisent absolument pas d'IA, donc qui vont être des cartographies, par exemple, pour traquer les bateaux de pêche, aider l'association Bloom à traquer les bateaux de pêche, se trouver quand ils sont dans des aires marines protégées alors qu'ils n'ont pas le droit, cartographier les plus gros projets d'extraction fossile, etc. Donc en fait, il y a plein de choses où on n'a juste pas besoin d'IA. Je pense que c'est très important de le redire. Et après, il y a quelques projets, on utilise de l'IA et on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Et on pense que à court terme, le besoin auquel on essaye de répondre, il est fondamental et il va dans le sens d'une société, de la société qu'on cherche. Donc voilà, ça répond à la question. Et en deux secondes, pour répondre à la deuxième question, je pense quand même qu'il faut appréhender... il y a la question des... En fait, il faut différencier les différents acteurs de la chaîne de valeur de l'IA générative en particulier. Il y a ceux qui font que des modèles. d'IA qui n'ont pas d'infrastructure, mais en fait, il y a toutes les entreprises derrière qui développent du cloud, comme Microsoft, comme Google, etc. Et elles, en fait, leur intérêt économique, c'est qu'on fasse le plus de requêtes possibles et le plus de calculs sur leur cloud. Et donc, en fait, pour elles, pour ces entreprises-là qui ont des infrastructures, ben, en fait, c'est rentable parce qu'on vient solliciter, on vient devenir encore plus dépendant à leur... Bah, OpenAI aujourd'hui, par exemple, pour Microsoft. Bah, en fait, c'est la question de c'est sûr que c'est possible que ce soit une bulle économique. Hein. Je n'ai absolument pas la réponse à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on crée des dépendances aux infrastructures cloud de ces entreprises, plus les modèles économiques deviennent imbriqués à ces infrastructures et plus on devient dépendant, sachant que c'est aussi... Comme en fait, c'est des services tout inclus, où on délègue toute la technique quand on s'en sert, on devient aussi très captif quand on construit son infrastructure dans le cloud. Et donc, du coup, plus des entreprises s'en servent et plus elles deviennent dépendantes de ces géants qui ont la main, enfin, qui ont des entreprises qui sont tentaculaires quand même, et plus on continue à les utiliser et donc. À terme, ça peut le devenir. Je ne dis pas que je sais. Et deuxième chose, c'est que OpenAI, etc., ils sont aussi en train de diversifier leur modèle d'affaires et plus faire uniquement des modèles d'IA, mais aussi un moteur de recherche. Et donc là, ils vont faire de la publicité. Donc en fait, ils sont en train d'essayer aussi de diversifier leurs sources de revenus pour devenir plus rentables.
Tu veux ajouter... Oui, non, mais vite fait, sur l'IA alternative. Alors ça, c'est une question qui est... qui je trouve est intéressant, c'est de dire ce serait quoi un modèle qui, en fait, quand on l'utilise, ne pille pas les données. Donc, il y a des startups qui font ça. Par exemple, vous savez, les systèmes où vous faites une réunion, et donc l'algo enregistre la réunion et fait le compte-rendu. Et j'ai rencontré, moi, c'est près de Besançon, une startup qui fait ça, et c'est un boîtier qui, en fait, ne renvoie jamais le contenu de ce qui a été dit dans un data center ailleurs. En fait, c'est en circuit fermé. La technologie, c'est une boîte, et notamment, ils contractualisent avec la Défense à Paris, là, près de Ballard. Et donc, eux, ils utilisent ce système-là où tout le boîtier, il est intérieur à la structure, l'entreprise ou le ministère ou l'administration, peu importe, et ça repart jamais. Donc ça, je pense qu'il y a des modèles qui peuvent permettre de faire ça. Après, ça s'appuie sur une technologie qui, elle, a dû s'appuyer sur des modèles qui posent problème. Mais bon, il y a des pistes comme ça. Sur est-ce qu'on s'en sert ou pas, j'ai envie de vous dire, le problème, c'est qu'on ne le sait pas toujours. Il y a plein d'usages où l'IA, elle est là, on ne le sait pas. Et puis, et même au-delà de ça, vous avez un usage de deuxième degré. C'est-à-dire que vous allez utiliser un outil qui, pour être inventé, a dû en amont utiliser l'IA. Donc, en fait, est-ce qu'on en a utilisé? Vous n'avez pas une AOC d'usage garanti sans OGM, enfin sans IA générative, en fait. Vous n'avez pas de traçabilité. Donc, vraisemblablement, même si on n'utilise pas directement ChatGPT, nanana, c'est probable qu'on ait utilisé, tu parlais des services publics, de la banque, le truc, qui, eux, ont utilisé cette affaire. Alors, sur votre question, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles possibles. Parce que soit leur modèle économique existe, et comme on l'a dit, il a tellement demandé d'argent que pour qu'il soit rentable, en gros, et c'est la fameuse phrase, vous dites, mais qui paye? Mais même quand on ne paye pas, on paye. Puisqu'en fait, on paye par les données qu'on donne et par les produits, qu'on nous pousse à acheter ensuite, plutôt là que là. Ce n'est pas un petit sujet. Hein. Aujourd'hui, Amazon, moi, je prends pour faire une métaphore avec la vraie vie. Aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez vendre des trucs en ligne. Comme vous pouvez ouvrir un magasin. Amazon, c'est comme s'il décidait par où passent tous les clients potentiels d'une ville. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, mettre votre magasin dans la rue d'à côté. Il n'y aura pas une personne qui passera devant votre magasin. Donc, vous ne vendrez rien. Donc, en fait, c'est pas... quand on parle, ouais, la publicité ciblée, c'est quand même pas ce qui va rentabiliser tout ça. Oui. Parce qu'en fait, ils vous drainent, j'ai envie de dire quasiment de force. Je vais vous donner un exemple sur l'hôtellerie-restauration, sur les hôtels. Aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils vont à l'hôtel, peut-être pas vous, mais ils passent par Booking ou des plateformes de ce type-là, qui prennent 20-25% du prix que vous payez pour aller à l'hôtel. Quand vous discutez avec des patrons d'hôtels ou des patrons d'hôtels indépendants, ils disent « mais moi, je suis obligé de passer par Booking ». Et donc, là, vous avez une captation. 20% de tout ce que les gens payent pour aller à l'hôtel, en fait, ça représente... Et ça, c'est un exemple. Donc, il y a tout ça. Et j'ai envie de dire, ça, c'est... Et si ce n'est pas rentable, j'ai presque envie de dire, c'est pire. Parce qu'en fait, l'infrastructure, elle existera, et ils en feront forcément quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce que j'essayais de décrire tout à l'heure, c'est un modèle totalitaire pour, de force, faire en faire tout ce genre d'infrastructure. Il y a pas, en fait, je ne crois pas à l'hypothèse où bon, bah, ça va se casser la gueule, donc du coup, le truc, c'est pas ce que vous allez dire, mais donc, le truc, en fait, la menace qu'on surévalue aujourd'hui s'effacerait. Moi, ces infrastructures et ces technologies, elles resteront. Elles seront toujours en œuvre.
Juste pour compléter, les revenus de Facebook, par exemple, c'est 98%, c'est la publicité. Hein. Donc, enfin, oui, mais en fait, Facebook, ils ont commencé, ils étaient gratuits. Donc, en fait, je veux dire, OpenAI, ils sont déjà en train de parler de comment est-ce qu'ils vont mettre de la pub dans ce qu'ils font, et ce serait tellement pire parce que en plus, il y a aucun moyen de tracer. Comment est-ce qu'on certifie que c'est pas de la publicité ? Donc, enfin, en fait, c'est vraiment très important de voir aussi les risques psychiques et psychologiques de ces technologies qui, sous couvert de intelligence artificielle et même du vocabulaire qu'on utilise pour en parler, génèrent une forme de confiance très forte dans les résultats parce qu'on a l'impression que c'est scientifique, que c'est mathématique. Il y a vraiment plein de gens qui croient très fort à ce qui ressort et qui ne développent plus d'esprit critique par rapport à ce qui sort de ces modèles. Ça, c'est très, très dangereux parce qu'ils sont orientés, en fait.
On va prendre une dernière série de questions. Levez la main tous ceux qui veulent poser une question. Je vais faire une sélection. Alors, on va faire un truc équilibré en termes de genre. Oui, vas-y, monsieur était le premier à demander. Madame, ça sera la suivante. C'est ça. Et on va peut-être monter tout là-haut. On ne voudrait pas.
Bien. Ma question sera très courte. Vous avez bien décrit le monstre qui était... l'intelligence artificielle, comment il était financé, comment il s'immisçait de plus en plus. Mais je ne peux pas imaginer qu'un monstre n'a pas un talon d'Achille. Donc, pourriez-vous nous parler un petit peu de celui-là ? Et alors, juste à titre d'exemple, vous parliez de Booking. Mon épouse et moi, on va beaucoup à l'hôtel, on va beaucoup dans les chambres d'hôtes. Et effectivement, il y a moyen de passer à travers en contactant directement les propriétaires des chambres d'hôtes ou des hôtels. Et ils sont toujours ravis.
Merci.
Et c'est ce que nous avons fait en venant à Cluny.
Merci. Oh.
Madame. Moi, je voulais juste dire, parce que je ne sais pas si les gens le savent, mais moi, je suis artiste et donc j'ai été dans la bataille avec plein d'autres gens pour les droits d'auteur. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question assez fondamentale, parce que en fait, l'IA, elle a besoin des artistes. Ça paraît idiot de le dire comme ça. Et elle a inventé. Il y a par exemple, moi, j'ai appris en suivant des cours. Que, par exemple, mon site, comme d'autres sites, il y a des suceurs. Donc, les gens ne le savent pas du tout. C'est-à-dire qu'à peine vous avez une image, un site, quoi que ce soit, il y a un suceur qui arrive et il n'y a aucun moyen de les arrêter et qui ponctionne les images, la musique, les vidéos, enfin, tout ce que vous voulez. Je voulais juste dire que un des pays qui s'est le plus battu contre les droits d'auteur, c'est la France, avec Macron, qui a systématiquement voté absolument tout et réduit à néant toutes les batailles. Et c'était, je crois, à 2-3 voix près. Donc, moi, ça a été dramatique. J'ai trouvé ça vraiment... Moi, je voulais juste dire encore que ce qui me paraît le plus grave, encore au-delà de tout ça, c'est une sorte de... J'y vois une dépendance psychique. J'entends de plus en plus de gens qui parlent à leur... à des voix. Et je conseille à tout le monde d'aller voir un film, comment dire, blockbuster, sûrement pas terrible, mais quand même, qui est Dalloway. Sortez de chez vous, allez le voir. C'est une artiste qui va confier dans un moment de grand désespoir sur sa production, va demander de l'aide à l'IA. Et c'est d'une violence absolue. Et cette question psychique, c'est pas seulement du mimétisme comme on avait avant. Hein. C'est pas seulement Voilà, ça, enfin, c'était juste des questions que je voulais poser. Merci de rappeler que c'est effectivement, tout dépend de notre vision du monde.
Merci. Merci. Tu tentes tout là-haut, il y a une main, et puis... Oh, désolé, ça sera pour les écuries.
Oui, merci. J'avais une première remarque. Moi, je suis ingénieur en informatique, donc l'IA, c'est quelque chose que je connais assez bien. J'ai bossé sur les moteurs de recherche. Et aujourd'hui, on a passé le test de Turing. Et pour nous, informaticiens, c'était quelque chose d'inimaginable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des conversations avec ChatGPT-4, pour ne pas le citer, et avoir le sentiment de parler à un vrai être humain. D'où des dépendances psychiques, comme vient de le décrire la dame ici. Moi, je vois beaucoup de personnes avec des compagnons IA, c'est effrayant. Ceci dit, le point que je voulais faire, c'était sur l'IA soutenable. Dans toute technologie, il y a une sorte d'optimum. Et à un moment donné, on dépasse l'optimum. Et là, l'optimum, pour moi, c'est ce modèle qui fonctionne très bien. On n'a pas besoin d'aller plus loin, qui répond à beaucoup de besoins aujourd'hui quand même assez essentiels. Et il est possible de faire tourner des modèles open source sur des infrastructures très légères et de se réapproprier cette IA. Et la raison à ça, c'est un problème technique qu'on n'a pas évoqué, c'est que pour entraîner une IA, il faut, c'est l'équivalent pour faire un radiologue, il faut 12 ans d'études. Et cette phase est très coûteuse en temps et en énergie. Mais une fois que c'est fait, on pose la question au radiologue, il y répond. Et bien, l'IA, c'est pareil. La phase d'inférence, elle peut être assez peu coûteuse. Et de toute façon, qu'on le veuille ou non, quand on va sur Google, on a une réponse de Gemini. Donc on utilise l'IA, déjà. Ils nous l'ont imposé, en fait. Hein. Donc voilà, je pense qu'une IA soutenable est possible, elle sera forcément marginale, parce que vu les investissements en infrastructure qu'on a eu, ils vont pas les mettre à la poubelle, mais je pense que c'est une voie à explorer pour ne pas se passer de ces outils qui peuvent être importants si on n'a pas de dépendance psychique.
Merci, je vous laisse répondre et conclure tranquillement.
Ouais. Par rapport aux solutions, alors, c'est très bien de faire ce que vous faites. Hein. C'est-à-dire que si vous avez le temps, vous cherchez l'hôtel éventuellement sur Booking, mais vous ne le réservez pas par Booking, vous appelez directement l'hôtel pour... Après, mais c'est ce que disait Lou tout à l'heure, c'est très bien de le faire, mais ce qu'on doit réfléchir, ce n'est pas les solutions individuelles, parce que sinon, on est face à des entreprises qui massifient les choses. Donc, il faut trouver aussi, et peut-être avant tout, les solutions globales. Et bon... Il y en a un certain nombre. D'abord, j'en ai dit un mot, hein, la régulation. C'est-à-dire, en fait, l'Union européenne, c'est le premier marché du monde. Donc, en fait, quand on prescrit des règles, aussi puissants soient-ils, ces géants sont obligés de s'y plier. Et je trouve qu'on, même si on a fait ces règles, on ne fait pas assez de sanctions. Moi, typiquement, je pense qu'on aurait dû fermer X, Twitter, dans l'Union européenne. Quand vous avez une multinationale qui essaye de modifier les résultats électoraux en Allemagne en faisant voter néo-nazis, c'est pour moi une raison suffisante pour interdire l'accès à l'Union européenne d'une entreprise comme X. Et c'est vrai pour... on a parlé de Meta, Facebook, c'est vrai pour tout ça. Et vous avez vu, d'ailleurs, dès que Trump a été élu, le premier rapport de force qu'il a fait par rapport à l'Union européenne, c'est « faites-moi gicler ces réglementations européennes ». Entre parenthèses, ça veut dire qu'elles ne sont pas si inoffensives que ça. Et ce qui est très intéressant, tu me demandais tout à l'heure, mais comment ça se résonne, du coup, politiquement à l'Union européenne? Et là, on est dans un momentum très risqué, où, en gros, il y a l'idée de dire on doit choisir entre nos valeurs, nos critères et la compétitivité. L'idée étant, et ça concerne, madame, le copyright et le droit d'auteur, de dire, mais si on veut nos IA et nos big tech aussi puissantes que les autres, il ne faut pas faire de réglementation européenne. Et donc, toutes nos règles européennes, DSA, DMA, Copyright, e-Act, tout ça, il faut les casser pour développer notre Mistral ou quoi. Et à cela, je dis à chaque fois, mais à votre avis, si Trump nous demande de défoncer nos réglementations, vous croyez vraiment que c'est pour développer nos propres entreprises à nous? S'il nous demande de le faire, c'est pour favoriser ces géants de la tech. Et donc, vous devriez comprendre... qu'il n'y a pas, en fait, la condition de notre compétitivité numérique, c'est notre réglementation. Donc, si tu parles de ça par rapport aux solutions, c'est nos régulations européennes qui feront que nous serons y compris compétitifs, et compétitifs au sens où nous, on l'entend. en raccord avec nos valeurs dont parlait Lou tout à l'heure. Et ça, c'est très important de comprendre. Et les solutions, mais le monsieur ingénieur en parlait tout à l'heure, c'est quoi une IA alternative, etc. C'est du stockage décentralisé. C'est des propriétés de data centers et de fils d'infrastructures physiques publiques. Services publics, ça, c'est des solutions. Sur tout ce que sont nos solutions logicielles, software, ça doit être de la licence libre. En fait, il y a plein de façons globales de hacker le modèle qu'on veut nous imposer, et ça ne voudra pas dire être moins performant sur ce qu'on produira. Ça voudra dire le faire en cohérence avec nos valeurs. Sur le copyright, il aurait fallu, je pense, 2 heures rien que là-dessus. Aujourd'hui, je suis rapporteur fictif sur le débat copyright et IA. En fait, quand on a réfléchi à la réglementation sur l'IA, il y a un angle mort sur la question du copyright et du droit d'auteur. Où, en fait, en clair, on a fait une exception du droit d'auteur pour l'IA. Mais à l'époque, c'était en 2019, c'était pas l'IA générative. C'était déjà un problème à l'époque de le faire. Parce qu'à l'époque, il y avait un débat, y compris les Verts n'étaient pas clairs là-dessus. C'était de dire, mais oui, mais il ne faut pas faire chier avec le copyright. Vous savez, c'était à l'époque où c'était la fin du disque et c'était pour que tout le monde ait accès à la culture et donc il ne faut pas trop réglementer parce qu'il y a une relation qui doit être simplifiée sans les grandes firmes Universal Music et compagnie. Les gros, c'était ceux-là à l'époque. On n'est plus dans ce monde-là. On n'est plus dans ce monde-là. Les gros, aujourd'hui, c'est plus Universal, j'ai envie de vous dire. C'est les géants de l'IA dont on a parlé. Donc le combat sur le copyright, il est déterminant parce que, comme vous le dites, moi, j'aime bien utiliser la métaphore de l'agriculture pour parler de ça. Vous avez parlé de sucer, j'ai parlé de moissonnage. D'accord ? Ce que font ces firmes d'IA, c'est qu'elles moissonnent les contenus, et notamment les contenus artistiques. Pour en faire quoi ? De nouveaux contenus, entre guillemets, artistiques, mais synthétiques, sans intervention humaine. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? C'est qu'en fait, la production d'origine humaine, dans ce qu'il y a sur le net, est noyée par de la production synthétique. Et de plus en plus. Pourquoi je fais le parallèle avec l'agriculture ? Quand il y a eu la révolution verte, ce qu'on a appelé la révolution verte après la Seconde Guerre mondiale, on a dopé des sols qui étaient des sols vivants, extrêmement riches, parce qu'on n'avait jamais utilisé de produits chimiques. Et on a rajouté dessus du chimique, de l'intrant, etc. Et ça a été magique. Ça a produit, et même Dumont, qui était agronome à ce moment-là, dit « Mais c'est incroyable, on va résoudre le problème. » Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de quelques années ? Les sols ont complètement été pompés, fragilisés, asséchés. Et donc, on a dû rajouter encore plus d'intrants. Et voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Ce qui est en train de se passer, et c'est une des autres limites au-delà de la limite financière, c'est qu'en fait, on est en train de noyer les données, les datas d'origine humaine. Parce que jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait que des datas d'origine humaine. On est en train de les noyer dans des datas pourries, de mauvaise qualité. Et donc, ça va rendre potentiellement moins performantes, ces IA. Donc, en fait, y compris la traçabilité sur les données humaines, elle est essentielle, y compris pour développer une IA qui soit fiable. Vous voyez l'idée ?
Je vais conclure très rapidement. Je pense que, je pense qu'il y a un message avec lequel j'ai envie que vous repartiez, c'est vraiment cette idée de politiser le rapport à la technologie, de pas céder aux sirènes, en fait, si on passe à côté de ça, on va tout rater parce qu'en fait, on met jamais au regard de tout ce qu'on est censé gagner avec l'IA, tout ce qu'on perd en autonomie, tout ce qu'on perd en indépendance, tout ce qu'on perd en esprit critique et même en tout. En fait, on perd plein de choses. Et donc, en fait, il faut systématiquement avoir cette approche quand on pense au développement de ces technologies. Je pense que c'est une occasion. Il existe plein d'alternatives open source, que ce soit et plus libre et décentralisé, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour vos mails, que ce soit pour plein de choses dans vos entreprises ou en perso, etc. Donc, il y a plein de réflexions à avoir sur comment est-ce qu'on peut sortir de ces systèmes. Il faut bien sûr qu'ils soient construits de manière globale. Il faut qu'il y ait une stratégie européenne qui soit complètement différente que celle qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Et il faut qu'on pense ces structures numériques de manière démocratique. démocratique. Il faut que les citoyens soient beaucoup plus impliqués dans la direction qu'on prend et dans l'usage qu'on fait de ces modèles. Il y a plein d'usages qu'il ne faut pas faire, en fait. Et ceux qu'on décide de faire, il faut qu'on les décide collectivement. Donc, tout est à repenser. Et en même temps, c'est une super opportunité de sortir de la manière dont le numérique est développé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il est au service d'une vision ultra-capitaliste, ultra-totalitaire, voire fasciste pour une grande partie des acteurs qui la développent. Donc il faut vraiment entrer en résistance. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour vos questions.